Bonjour à tous et bienvenue sur Lusitania chez Aligre FM 93.1. Aujourd'hui, nous recevons Marc Terris pour la présentation de son nouveau livre « Variations sur le Portugal » édition Cosmopol. Et Marc est bien connu des auditeurs de Lusitania car nous avons déjà eu le plaisir de l'accueillir à l'occasion de lancement d'autres livres, notamment « Lisbonne, ville musulmane et mélodie amère », émission disponible sur notre site aligrefm.org, podcast Lusitania. Marc est historien, ayant une grande connaissance et expérience dans le domaine de la médiation culturelle et des institutions culturelles. Dans son parcours professionnel, un fil rouge se dessine, le patrimoine culturel des minorités, notamment la présence arabe en Europe. Et d'ailleurs, le livre « Lisbonne, la ville musulmane » est un bon témoignage de la mise en honneur de cette présence dans la capitale cosmopolite qu'elle est aujourd'hui. Mais je ressens un autre fil rouge qui va peut-être se dessiner au fil du temps de cette émission. Je sens un passionné par le Portugal, peut-être même par la lusophonie plus en général. Ce nouveau livre « Variations sur le Portugal » résonne exactement dans cet intérêt et a été pour moi une très belle découverte comme un guide touristique, historique, intellectuel et artistique où l'historien rencontre la passionnée et nous donne d'autres repères pour appréhender le pays. Bienvenue Marc.
Merci, bonjour.
Bonjour. Et moi, je suis Anna. Avec vous sur Lusitania et à la technique, nous avons Julien et Alexandre. Et au micro, autre que Marc et moi, nous aurons Elena aussi. Avant de nous faire plonger dans ce livre, j'aimerais créer un moment de respiration. Nous avons discuté avant cette émission, nous avons échangé et j'ai compris que la douceur de la guitare de Carlos Paredes a été une source d'inspiration, peut-être même une compagnie pendant les heures d'écriture. Et j'aimerais bien vous proposer un petit souffle avec les cordes de Carlos Paredes et le moment Serenata avant de plonger dans les variations sur le Portugal. C'était la guitare de Carlos Paredes avec Serenata. Et nous sommes aujourd'hui chez Aligre avec Marc Terris pour nous parler de ce livre « Variations sur le Portugal ». J'ai avec moi le livre, un livre ni trop petit ni trop gros, très pratique, qui nous présente votre lecture sur le pays, organisée en plusieurs chapitres, soit liés aux villes, régions, soit à des axes d'interprétation et son histoire, qui font finalement partie de l'identité portugaise. Plus concrètement, on rencontre des chapitres liés à des villes, mais aussi à l'art de vivre, à l'art plastique, à la peinture, à l'influence du monde arabe, du judaïsme, la négritude. Je reprends vos propres mots en début du livre, dans l'avant-propos, et je résume le propos du même. Aller au Portugal, c'est apprivoiser une périphérie européenne, un bout du monde qui a pour principale frontière l'océan. L'âme singulière de ses habitants, association paradoxale d'humilité, voire sentiment d'infériorité, et d'un incommensurable orgueil, résulte d'une histoire à la fois prestigieuse et malheureuse, nourrie par cet environnement maritime. La mentalité portugaise, balance entre ces contradictions, à l'origine d'un foisonnement artistique sans équivalence. Écartelé entre bonheur et mal-être, souffrant d'un exil intérieur, les poètes, écrivains, cinéastes et plasticiens fascinent. Ils parviennent à se transcender, travaillés par leurs sentiments exacerbés. Pessoa est l'archétype de ce personnage. Tabuki et d'autres ont été captivés par ce pays aux mille couleurs et autant de nuances d'humeur nostalgique rapportées des cinq continents. Les chapitres qui suivent invitent à appréhender les multiples facettes du pays via un voyage intellectuel, historique, anthropologique et gastronomique. Les lieux s'improvisent, sourcent et nourrissent un récit imaginé qui se veut onirique pour partager une passion qui ne se tarit pas. Les chemins lusitaniens proposés ici prennent la tangente d'itinéraires déjà tracés, tous en s'appuyant sur un Portugal éternel à même de séduire des âmes déjà conquises comme les néophytes. Voilà Marc, petite question obligatoire. Comment avez-vous l'idée d'écrire ce livre, Variations sur le Portugal ?
Alors vous l'avez un petit peu abordé lors de votre introduction, il y a d'abord eu Lisbonne dans la ville musulmane et ce fil conducteur du monde arabe, on va dire lié à l'Occident, hein, les diasporas arabophones d'hier et d'aujourd'hui qui m'intéressaient, qui m'intéressent toujours. Et Lisbonne dans la ville musulmane, mais c'est un point de bascule parce que je m'intéresse quelque part à l'histoire arabo-berbère de cette ville, mais je découvre aussi le monde lusophone, le Portugal, Lisbonne. Et d'ailleurs, dans ce premier livre, il y a cette envie d'en savoir plus sur le Portugal que j'ai pu extrapoler, que j'ai pu plus travailler dans ce Variation sur le Portugal. Déjà, à l'époque, je m'intéressais aux poètes, aux écrivains, aux artistes par rapport au nom de rue qui était visible dans Lisbonne. Mais voilà, il y avait une volonté d'aller plus loin. Alors j'ai par la suite un peu travaillé sur l'Alentejo, justement l'Alentejo qui est un peu une continuité de Lisbonne dans cet aspect d'héritage islamique et aussi par rapport au rôle que la région a pu jouer par exemple dans la révolution des œillets. Hein. Le travail était là, mais c'était pas suffisant. Il fallait que je prenne le Portugal dans toute son entièreté, du nord au sud, et j'ai rencontré les éditeurs de Cosmopol qui justement souhaitaient réaliser un ouvrage un peu nouveau par rapport au dictionnaire insolite qu'ils publient, on va dire un livre qui était un regard personnel sur un pays, et j'ai senti que j'avais la maturité pour écrire là-dessus, en m'intéressant au Portugal continental, au territoire d'outre-mer, aussi à l'histoire du Portugal, mais aussi plus largement, je crois que c'est en filigrane dans le livre, au monde lusophone, donc en Afrique notamment, en Amérique, hein. Je parle du Cap-Vert, je parle de l'Afrique, je parle aussi de l'Asie, et puis du Brésil, bien entendu.
Oui, parce que votre roman « Mélodie amère », il y a une liaison avec le Brésil.
Oui, tout à fait. J'ai écrit un roman aussi qui s'appelle « Mélodie amère », qui est en lien avec le Brésil, effectivement, il n'y a pas très longtemps non plus.
Et avant ce livre « Lisbonne musulmane », vous aviez un rapport avec le Portugal ?
J'étais déjà allé au Portugal. Alors, c'est aussi un peu dans le livre. Je connaissais le Portugal de France, en fait. Les personnes qu'on appelle les luso-descendants. J'avais déjà travaillé avec eux dans le cadre de manifestations culturelles, d'expositions que j'avais co-créées avec eux. J'étais passé aussi dans des radios associatives en Ile-de-France. Et effectivement, il y a un Portugal qui existe ici, en région parisienne et en France aussi, mais c'est encore plus manifeste en région parisienne. Et ce Portugal, je le connaissais assez généralement. Donc c'était un premier point de départ. Voilà.
Donc, mais vous n'avez pas de
Je n'ai pas, lien... je ne suis pas luso-descendant. Après, j'ai des relations avec des Portugais, des Portugaises, beaucoup de personnes que je connais. Mais dans ce Portugal que j'ai découvert, et sur ce Portugal que j'ai essayé de décrire, de disséquer, d'analyser, d'ausculter dans ce livre, il y a un peu de mes racines. Dans l'introduction que vous avez lue, je me reconnais un petit peu. Alors moi je ne suis pas de région parisienne, hein, je suis aussi un migrant, on va dire, auvergnat, un exilé. Hein, je viens de l'Auvergne du Sud. L'Auvergne du Sud qui est un pays occitanophone. Hein, c'est ma langue d'origine, l'occitan. C'est ma langue. Et quelque part, dans cette Occitanie, cette grande Occitanie fantasmée qui n'existe pas, mais c'est, sans doute, je vais un petit, je retrouve de ce Portugal qui existe aujourd'hui. Il y a beaucoup de similitudes entre cette Occitanie qu'on va retrouver dans des régions comme le Quercy, par exemple, et le Portugal, dans la langue aussi, qui est très proche, dans le comportement des gens. Voilà, j'ai trouvé un lien personnel qui fait que ça m'a aussi intéressé d'écrire sur le Portugal, et ça m'intéresse toujours de découvrir de nouveaux aspects de ce pays aux multiples facettes.
C'est très intéressant parce qu'en lisant le livre et en écoutant maintenant l'explication et en sachant aussi le métier de chercheur qui a toujours des protocoles, des méthodes, des sources, il y a une façon de créer la connaissance et on sent dans ce livre déjà la rigueur du chercheur mais on sent aussi le passionné de quelqu'un qui vraiment a aimé ce voyage, qui a été touché par ces paysages, par le côté anthropologique, comme on voit dans le livre. Et d'où ma question, parce que je sens vraiment que ça va bien au-delà qu'un intérêt ou un parallélisme entre l'Auvergne et l'Occitanie et le Portugal. Je pense qu'il y a quelque chose d'affectueux, d'une affection assez réelle et qu'on peut la sentir.
Oui, oui, il y a de l'amour dans ce livre, oui, effectivement, c'est sûr. Il y a de l'amour par rapport au Portugal, par rapport à beaucoup de choses qui me touchent dans ce pays et qui m'ont fait écrire dessus, c'est certain. Je retrouve vraiment dans le caractère anthropologique, le trait des gens, quelque chose de je suis une personne de passion en fait. Je me passionne très rapidement pour les choses. J'ai été intéressé par d'autres pays par le temps. Hein. Bon, à un moment, j'étais très intéressé par l'Italie, mais le Portugal est beau du nord au sud. Les Portugais, même si les choses tendent à changer avec une certaine forme d'uniformisation liée notamment au tourisme, mais sont quand même des gens par rapport au reste de l'Europe. Et j'en parle dans le livre, qui ont su garder une certaine forme de solidarité, d'entraide, tout en étant des personnes quand même globalement tolérantes, hein, en essayant effectivement d'avoir cette double entrée qui n'est pas toujours facile dans les sociétés occidentales. D'autre part, c'est un pays qui a des racines multiculturelles partout. Hein, en Afrique, c'est d'abord là où je dirais que c'est le plus important, c'est un pays métissé. Je voulais aussi montrer cet aspect-là, parce que le côté multiculturel, le côté cosmopolite m'intéresse toujours. Donc j'en parle, je parle de la négritude portugaise, je parle aussi bien sûr des racines arabo-berbères, du judaïsme qui est très important au Portugal également, souvent en lien d'ailleurs avec l'histoire islamique. Et puis aussi je parle de l'expansion, l'Asie, l'Inde, le Japon aussi, puisque les Portugais sont allés un peu partout, pour le meilleur et parfois pour le pire aussi, il faut bien le dire. Hein, mais néanmoins, il reste des choses de tout cela, et puis ça marque l'âme portugaise, hein, comme vous l'avez expliqué encore une fois en lisant l'introduction. Il y a ce côté artiste chez les Portugais, ce côté d'exil intérieur, où finalement il y a cette fierté du passé, mais ce présent qui est sans doute moins glorieux hein, par rapport au modèle qu'on impose un peu dans ce qu'on appelle la réussite ou autre, hein, la réussite économique notamment. Mm-hmm. Donc il y a cet entre-deux, cette fierté, en même temps ce manque de confiance en soi, ce côté aussi de migration importante. Il y a des Portugais qui sont partout dans le monde, qui fait qu'on a un terrain fertile pour faire s'exprimer la musique, les arts et la culture de façon générale. Et c'est une réalité au Portugal. Et ça m'a beaucoup touché également.
Revenons à la fabrication de ce livre. Donc déjà, on a appris que c'était une belle rencontre entre Marc et Cosmopol, la maison d'édition. Oui, on en parlera plus tard des perles que cette maison d'édition nous propose. Mais combien de temps avez-vous pris pour l'écrire ? Comment ça s'est passé ?
Alors, comme je vous l'ai dit, il y a eu déjà un premier travail fait sur l'Alentej, mais qui n'a pas trouvé d'éditeur ou qui n'était pas encore peut-être assez mature. Par la suite, donc, j'ai rencontré Cosmopol lors du Festival international de géographie de Saint-Dié en 2019, juste avant le Covid. Et c'est là où on a commencé à travailler dessus. Hein, au début, il fallait bien qu'on comprenne ce qu'on voulait l'un l'autre. J'étais un peu parti dans un récit d'écrivain voyageur plus romanesque parce que j'étais dans cet état à l'esprit. Et puis de fil en aiguille, j'ai plus effectivement, comme vous l'avez dit, fait un carnet de recherche à ciel ouvert, ou peut-être une œuvre géographique un peu vidalienne. Hein. Vidal de la Blache, qui est un géographe du passé, on va dire, au début de la géographie, où on a un côté littéraire qui est poussé, mais aussi effectivement des recherches et des connaissances. Voilà, c'est ça qui est important pour moi, c'est d'essayer de marier, d'entremêler à la fois les sciences humaines et une écriture plus littéraire, qu'on ne va pas trouver en fait, souvent, dans les livres d'histoire ou les livres en sciences humaines. Voilà. Et donc ça m'a pris, on va dire, un an à peu près pour faire ce travail. Alors j'ai aussi la chance de pouvoir aller régulièrement au Portugal, notamment sur le Douro, parce que je suis conférencier sur des croisières, donc ça me permet de me nourrir du nord du Portugal que je connaissais un petit peu moins que le sud. J'ai aussi des opportunités pour aller souvent à Lisbonne et je ne m'en prive pas parce que c'est vraiment un pays que j'aime beaucoup. J'y retourne chaque fois avec beaucoup de joie et de plaisir.
Il y a une autre question que j'aimerais bien aborder, c'est la question de la lusophonie. Parce que là, ce que vous avez dit sur l'occitan et le rapport à une langue qui est un peu étrangère, même si elle n'est pas étrangère, parce qu'elle est une langue qui fait partie des langues françaises, mais on sent cette étrangeté, on va dire comme ça. Je sens aussi cet intérêt par la lusophonie, et j'aimerais bien comprendre un petit peu pourquoi... On sort un petit peu de ce livre, Variations sur le Portugal, mais j'aimerais bien faire un petit crochet avec le roman Mélodie amère qui se passe au Brésil. Est-ce que la lusophonie, ou pourquoi est allée au Brésil pour écrire une histoire autre, un roman?
Alors, être allé au Brésil, parce que le Brésil, malgré toutes ses contradictions, c'est le pays par essence du multiculturalisme. Donc, le héros de Mélodie amère est un petit garçon albinos qui grandit dans une favela à Fortaleza. Et je voulais parler de cet aspect social. C'est un roman social, en fait. Il m'a semblé que le Brésil était l'endroit idéal pour camper ce type d'histoire. Même si je connais moins le Brésil que le Portugal, mais ça m'a semblé intéressant. Et d'autre part, le Portugal et le Brésil sont liés. Il y a un prolongement naturel qui se fait par rapport à l'histoire du Portugal. On parlait du meilleur et du pire. Hein. Bon, il y a la traite négrière, forcément, qui a laissé des traces au Brésil, hein, des choses douloureuses, mais aussi des choses positives. Hein, un mélange de cultures, des musiques.
Joyeuses, en tout cas.
Voilà, dans Mélodie amère, j'en parle aussi. Voilà. Donc, c'est pour ça que j'ai voulu me projeter au Brésil, sur ce prolongement du Portugal, avec un contexte social américain, on va dire, qui est différent. Et puis, il y avait la musique aussi, dans Mélodie amère, qui jouait un rôle prédominant, le carnaval et certaines formes de musique qui sont moins présentes au Portugal, qui sont moins prégnantes, puisque la musique est un élément très important de ce roman-là.
Merci, merci beaucoup pour ce détour avec Mélodie amère. D'ailleurs, je rappelle les auditeurs que vous avez un podcast sur notre site où Marc parle avec Alexandra sur ce livre, ce roman qui est sorti l'année dernière, je crois.
Oui.
Exactement. On va plonger dans le livre, mais juste avant, je vous propose une autre pause musicale, toujours habitée par le son d'une guitare. Cette fois-ci, j'aimerais bien présenter le projet Ugaju, un projet musical signé par João Moraes et qui met en honneur la guitare de Alentejo, Viola Campanissa. Je vous propose le morceau « Há uma festa aqui ao lado », il y a une fête à côté, je me disais que c'était un bon titre. Et ce morceau fait partie de l'album « Longe do chão » sorti en 2017.
Vous écoutez Aligre FM 93.1. Thank you.
C'était O Gajo a uma festa aqui ao lado, un guitariste portugais qui a un projet où la guitare d'Alentejo, viola campanissa, est mise à l'honneur. Et nous sommes sur Aligre FM, Lusitania 93.1. Aujourd'hui, nous avons avec nous dans notre studio à Paris Marc Terris pour nous parler d'un livre très 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 inspirant sur le Portugal qui s'appelle Variations sur le Portugal. Et avant de rentrer dans le détail du livre et dans certains de ses chapitres et votre vision sur ce pays, j'aimerais bien qu'on écoute un poème de Rui Belo qui s'intitule « Le Portugal futur » qui va être lu par Helena Scaplin-Crozera.
Le Portugal futur. Le Portugal futur est un pays où le pur oiseau est permis. Et sur le lit noir de l'asphalte, de la route, les enfants profonds dessineront à la craie ce poisson du jeune âge qui apporte l'inondation et qui, je crois, s'appelle Alose. Mais quoi qu'il dessine, c'est là la forme de mon pays. Et de quelque manière qu'il l'appelle, ce sera le Portugal et j'y serai heureux. Il pourra être petit comme celui-ci, avoir à l'ouest la mer et à l'est l'Espagne. Il sera tout nouveau, des branches à la racine. À l'ombre des platanes, les enfants danseront et sur l'avenue qu'il y aura en bord de mer, même quand le temps change, ce sera l'été. J'aimerais entendre sonner l'heure à l'horloge de l'église. Mais ça, c'était le passé. Et il se pourrait que ce soit dur d'édifier sur lui le Portugal futur.
Merci Helena. Ça t'a plu ?
Oui.
Merci beaucoup. Bravo. C'était un poème de Rui Belo. Et j'ai choisi ce poème car il a les mêmes ingrédients que font le guide, pour moi. Il a un regard, un pays, bonheur, espace et temps, donc la géographie, et une douceur de vivre que je pense qu'Helena a véhiculée, merci beaucoup, dont vous avez parlé dans le livre. Et justement, sur la douceur de vivre, je lis un petit extrait avant de vous écouter. Donc, il y a un moment où on parle de votre impression sur les Portugais et cette façon d'être. Il y a un moment, le livre dit qu'il y a un substrat qui relie toutes ces constructions anthropologiques, une unicité redondante, que l'on soit en Algarve, tout au sud, à la frontière septentrionale entre Minho et Galice, ou dans les îles atlantiques perdues au milieu de l'océan, qui sont les Açores et Madère, vestiges d'une période coloniale qui a pris fin avec la dictature. Ce leitmotiv que le voyageur ressentira dès ses premiers pas, c'est la douceur de vivre. Alors Marc, qu'est-ce que c'est la douceur de vivre portugaise pour vous ?
Alors, la douceur de vivre, quand on vient de France, par exemple, ou même de France plus globalement, c'est la gentillesse aussi. Je dirais. J'en parle, il y a un chapitre qui lui dédie. C'est la gentillesse des Portugais, cette gentillesse gratuite qu'on retrouve dans peu de pays, même dans désintéressés, où les gens vont vous aider spontanément, mais sans trop en faire, sans tomber dans une exubérance ou sans tomber dans un côté obséquieux. C'est vraiment ça que je retrouve chez les Portugais. C'est cette gentillesse gratuite. C'est tout un art de vivre. Et parfois, ça peut être aussi un défaut, parce que les Portugais sont tellement gentils qu'ils ne vont pas oser vous dire non. Donc voilà. Mais bon, vaut mieux être trop gentil que pas assez. Et ensuite, cette douceur de vivre, c'est prendre le temps. Prendre le temps de faire les choses, prendre le temps de vivre tout simplement. Hein. On sent que les relations, par exemple, au travail au Portugal sont totalement différentes d'ici, ou encore le pays est quand même un peu protégé, je dirais, un peu épargné par cette course folle qu'on va retrouver à Paris, encore plus peut-être dans les pays anglo-saxons, où il faut performer, où il faut courir. Bon, au Portugal, on est quand même un peu plus préservé. Ça se ressent un peu dans les grandes villes, mais plus on s'échappe, plus là, le temps finalement s'oublie, quoi. Hein. Donc c'est ça qui est agréable au Portugal, et tout en ayant finalement un niveau de vie acceptable et une qualité de vie exceptionnelle, je dirais. D'ailleurs, je pense que quand les Portugais partent, c'est ce qui leur manque. Quand je discute avec eux, ce qui leur manque de leur pays d'origine, c'est cette douceur de vivre, justement. C'est prendre le temps, c'est aussi ce climat, quand même, qui est assez clément, hein, du nord au sud, finalement. Puis c'est ces échanges avec les personnes, cette gentillesse, cette absence d'agressivité, j'aurais même envie de dire, hein, que l'on retrouve partout, qui caractérise les rapports sociaux. Voilà, c'est tout ça qui fait qu'il y a une douceur de vivre très prégnante au Portugal, qu'on retrouve vraiment, je dirais, dans des pays africains ou au Maghreb, et qui a pratiquement complètement disparu du continent européen aujourd'hui. C'est un peu une exception, cet extrême ouest européen, cet extrême occident.
Et ça, vous avez retrouvé de nord au sud. Il y a des différences un peu entre...
Alors, il y a quelques différences, mais c'est au niveau de la gentillesse et de l'accueil, on retrouve ça du nord au sud. Après, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est que le tourisme a tendance à pervertir ça, néanmoins. Dans les grandes villes, notamment, que ce soit à Lisbonne ou Porto... quand on voit des cohortes d'arrivants qui viennent le temps du week-end, ça a tendance à modifier les comportements, effectivement. Où là, la gentillesse gratuite a tendance à s'effacer, malheureusement.
Et il y a justement aussi dans le livre des chapitres dédiés aux trois villes principales, Lisbonne, Porto et Coimbra. Et d'ailleurs, je vais avouer, Luc, je suis de Porto.
Oui.
Et pour nous, le Portugal, les trois villes sont très différentes.
Oui.
Et justement, vous en avez parlé de cette rivalité entre Porto et Lisbonne, c'est pas du tout intéressante pour parler là, mais j'aimerais bien avoir votre avis de, justement, l'impressionniste de voyage, on va dire comme ça, des différences entre ces trois villes.
Alors les trois sont différentes, déjà la taille. Bon, Lisbonne et Porto ont à peu près la même taille, Coimbra est quand même plus petite. Et puis, bon, Lisbonne, ça se voit qu'elle se laisse un peu vivre, on va dire, où le temps, le rapport au temps est différent. C'est une ville, Lisbonne, que j'aime beaucoup, qui a des allures de Cuba, parfois d'Amérique du Sud, parfois d'Afrique aussi, et d'Orient. Hein, il y a beaucoup de parfums d'Orient aussi à Lisbonne. Et je dirais que Lisbonne, elle se caractérise vraiment, je dirais que c'est l'épicentre de ce sentiment de la douceur de vivre, même s'il y a effectivement ce côté Airbnb, tourisme de masse qui se développe, mais c'est quand même le symbole de la douceur de vivre. Porto, c'est une capitale aussi. Ça pourrait être une capitale parce que c'est une grande ville. Pour moi, elle n'a pas grand-chose à envier à Lisbonne. Néanmoins, c'est déjà plus une ville atlantique. On sent que c'est plus une ville du Nord, plus une ville industrieuse, où effectivement le travail est quelque chose de plus important qu'à Lisbonne. Lisbonne verserait plus dans les arts et Porto plus dans l'économique. Mais bon, quand on y regarde de plus près, au final, à Porto, il y a beaucoup de culture aussi. Il y a beaucoup de choses qui s'y passent, il y a beaucoup d'artistes. C'est une ville que j'aime beaucoup également, mais qui est différente plutôt de son aspect architectural et où on sent plutôt des influences... un peu plus septentrional, finalement, qu'à Lisbonne. Et puis, Coimbra, oui, ben c'est la ville des études, c'est la ville où on étudie, c'est un peu la Oxford ou la Cambridge du Portugal. C'est une ville qui est plus petite aussi, mais c'était l'ancienne capitale du Portugal. C'était la première capitale du Portugal en tant que royaume du Portugal. Et on va retrouver toutes les influences portugaises, le judaïsme, l'arabité aussi, l'Afrique peut-être un petit peu moins, c'est plus sur Lisbonne. Mais on va ressentir ça aussi. C'est une ville qui est très attachante également. J'aime beaucoup Coimbra.
Aligre FM 93.1.
Bon, Porto, moi je suis de Porto, je pense que c'est une ville qui a beaucoup de caractère.
Oui.
Mais là, je fais déjà mon mea culpa. Mais je suis d'accord. Il y a tout à fait beaucoup d'artistes qui viennent de Porto, il y a toute une vitalité.
Oui, les architectes aussi.
Les architectes, voilà. L'école de Porto est très, très importante. Mais il y a aussi d'autres chapitres, et j'aimerais bien aussi qu'on en parle d'un chapitre justement consacré aux arts, à la peinture. Là, on a aussi quelques notes sur des peintres, surtout du XXe siècle. de la période moderniste, mais aussi des petites impressions sur des artistes plus contemporains, notamment au niveau de l'installation et sculpture. Là, je parle de Joan de Vasconcelles ou Alexandre Fart ou Wills. Quelles sont vos impressions sur le sujet ?
Alors, c'est intéressant d'en parler dans le livre parce qu'ils ne sont pas très connus en France, ces artistes. Et il y a tout un travail à faire, notamment pour les artistes de l'avant-garde portugaise du XXe siècle, pour les faire connaître en France et, je dirais, plus largement. J'ai été récemment au musée de Porto, Soares dos Reis, qui a été réhabilité il n'y a pas très longtemps. Et les galeries sur la peinture portugaise du 19e et 20e siècle sont absolument merveilleuses. Ça m'a donné envie d'ailleurs d'écrire sur ces artistes, en particulier Henrique Poussin, qui est né en Alentejo, mais bon, qui a fait une grande partie de sa carrière à Porto, qui est allé en France. La plupart de ces artistes du 20e siècle sont allés en France aussi, puisque Paris était capitale mondiale des arts à l'époque. On a également de Sousa Cardoz, qui lui est assez connu. On pourrait parler de Viane, Eduardo Viane aussi, qui a notamment peint une superbe vue de Porto, qui est au musée Soares dos Reis. Donc tous ces artistes, j'aimerais les faire connaître et parler de leur histoire. Ils sont parfois partis en Normandie, parfois à l'école de Pont-Aven, à Paris, ils sont retournés au Portugal, d'autres sont partis en Italie aussi, je pense à Henrique Poussin. Et il y a, je trouve, un mouvement pictural qui est très intéressant, qu'on retrouve chez de Sousa Cardoz, qui est en fait pas tout à fait du cubisme, un peu de surréalisme, enfin c'est un mélange, il y a une spécificité portugaise.
Mais Sousa Cardoz en particulier, en effet, il est justement apprécié et visionnaire dans le genre parce qu'on regarde et on voit tout et il voit quelque chose d'assez unique que peut-être, selon vous, qu'un Portugais peut-être pourrait arriver à cette synthèse.
Oui, tout à fait. Tout à fait. Puis, il y a aussi Hermano Negreiros, qui est un artiste magnifique, qui est poète aussi. Si on va dans la station Saldanha à Lisbonne, il y a ces superbes phrases qui font le sel de la langue portugaise. Et même les peintures de Sousa Cardoz, de Hermano Negreiros, sont vraiment intéressantes. Et en particulier, un portrait de Pessoa qui est superbe. Puis il y a Sara Afonso aussi,
donc sa compagne.
Sa compagne. Et puis plus près de nous, effectivement, il y a les artistes plus contemporains. Bon, il y a Vieira da Silva qui est vraiment presque française. Elle est luso-française, puisqu'elle a passé une grande partie de sa vie, notamment dans le 14e arrondissement, aussi à Yèvre-le-Châtel dans le Loiret, où elle a fait venir beaucoup d'artistes portugais. C'est une artiste que j'aime beaucoup avec ses peintures où elle montre un peu de la déconstruction. J'en parle pas mal dans le livre, où elle a eu justement cette idée de déconstruire les paysages, déconstruire les paysages urbains à Marseille, en fait, en regardant un pont. Et puis, les artistes contemporains, Wills, effectivement, le street art, qui est sans doute assez connu au niveau des milieux spécialisés, mais il y a aussi un éclairage qui est fait sur lui et sur d'autres artistes contemporains qu'on va retrouver dans les musées internationaux, mais aussi, par exemple, à la Fondation Gulbenkian à Lisbonne ou à la Fondation Sardarv à Porto.
Oui, oui, voilà. Bien sûr. On va continuer sur les variations sur le Portugal, mais à présent, je vous présente un autre moment de guitare. Cette fois-ci avec Norberto Lobo. C'est un artiste, un jeune artiste, mais bon, il est là depuis quelques années. Et pareil, son instrument de base, on va dire comme ça, c'est la guitare. Mais après, il a d'autres incursions avec d'autres instruments. Mais aujourd'hui, on va écouter sa guitare avec le morceau Ayrton Senna de l'album Pata Lenta. Thank you. Et vous venez d'écouter la guitare de Norberto Lobo avec le morceau Ayrton Senna de l'album Pata Lenta. Vous écoutez Lusitania aujourd'hui avec Marc Terris, qui nous a parlé de plusieurs choses. Déjà la passion sur le Portugal, le croisement du chercheur et du passionné, le croisement aussi du chercheur et de l'homme littéraire, cet espace de liberté que finalement ce livre représente, de quelques impressions subjectives et objectives sur le Portugal. Et je sens que ce livre est un guide pour un visiteur bien original. Parce que quand on va dans un pays, certes, on va avoir notre appli, notre site, notre guide, et on a quelques repères, les transports, la monnaie, les restaurants. Mais finalement, j'ai senti qu'il y a tout intérêt parce qu'il y a un guide historique du pays, quelles sont un peu les briques fondatrices qu'ils font, et apporté par un regard humain, subjectif certes, mais très informé. Donc j'ai senti qu'il y a une richesse à le lire avant de visiter le pays, parce que ça aide à combler l'expérience d'une autre façon. Et c'est dirigé au grand public, donc tout le monde pourra, je pense qu'aura grand plaisir à le connaître. Et vous nous parlez du patrimoine matériel, monuments, statues, institutions, etc. Aussi immatériel, les mœurs, l'idiosyncrasie, la joie de vivre, la douceur de vivre, dont on a déjà parlé. Et je reviens un peu à la fabrication de ce livre. Donc ce livre lui-même est un voyage. Comment avez-vous choisi les étapes de ce voyage ?
Alors, on aurait pu effectivement mettre d'autres étapes supplémentaires, hein, parce que le livre n'est pas exhaustif. Mais c'est mes coups de cœur, en fait. C'est les étapes que je préfère. Après, il y a des incontournables, Lisbonne, Porto, etc. Mais même dans Lisbonne et Porto, il y a des endroits qui vous touchent plus que d'autres. Et puis, il y a un côté empirique aussi. La plupart des lieux que je cite, je les ai parcourus. C'est lié à ma trajectoire lusitanienne personnelle. Par exemple, j'aborde certaines régions, comme Trás-os-Montes, parce que je connais cette région-là qui m'a beaucoup touché. Il y a également certaines régions du nord, de la frontière, l'Alentejo, on en parle quand même pas mal, notamment la partie de l'Alentejo à la frontière espagnole, avec des villes comme Cristóvão ou Elvas, qui sont des villes très belles. Voilà, c'est un peu le verrou aussi portugais, la frontière avec l'Espagne. Il y a un chapitre qui est lié aux relations entre l'Espagne et le Portugal. Il y a aussi la ville de Évora, qui est une ville, Évora, que j'aime beaucoup, qui est pour moi une des plus belles villes du Portugal. Je parle aussi des Açores, de Madère. Voilà, c'est vraiment une expérience empirique avec, pour chaque région, sa spécificité, des choses qui m'ont certainement plus touché dans certaines régions que d'autres. Dans l'Alentejo, je vais soulever l'héritage islamique. Dans le nord, plutôt l'héritage celtique. Et par exemple, sur les Açores, je vais parler un petit peu du volcanisme, d'éléments qui sont plus liés à la géographie physique. Dans les villes, un petit peu du Portugal contemporain, lié à son multiculturalisme, son dynamisme aussi. Et j'aborde un peu aussi la question politique actuelle du Portugal. Voilà. Donc chaque région a ses spécificités, sont liées mon point de vue, mon sentiment quand j'ai parcouru ces lieux. C'est vraiment comme ça que je l'ai construit.
Très bien. Et après les variations sur le Portugal, quels sont des autres projets que vous avez
alors,
déjà dans la poche ?
Alors, il y a beaucoup de projets. Alors, tout à l'heure, je vous ai parlé des peintres portugais de l'avant-garde. Et effectivement, j'aimerais travailler sur ces peintres portugais de l'avant-garde. Alors, je ne sais pas sous quelle forme, peut-être un roman ou tout simplement un essai pour les mettre en valeur et parler de leurs travaux qui sont méconnus ici en France et même ailleurs finalement. Et il y a aussi, je pense, beaucoup de choses à faire sur les Portugais de la diaspora, les luso-descendants. J'ai des demandes à ce niveau-là. Alors il y a eu des ouvrages qui ont été publiés sur les Portugais à Paris par exemple, mais de façon plus générale sur la France et aussi en remontant un petit peu dans le temps, parce qu'il y a eu des Portugais en France, et j'en parle dans le livre, à la Renaissance ou au Moyen-Âge, des professeurs assez illustres et des intellectuels, des écrivains, et peut-être les mettre en lumière et mettre aussi en lumière des personnages moins connus. Je pense aux femmes qui ne sont pas toujours assez valorisées dans l'histoire du Portugal ou certaines minorités. Ça pourrait être intéressant d'en parler par rapport à ces ancêtres des luso-descendants. Et puis, il y a aussi des idées de travaux en lien avec l'Afrique lusitanienne, en particulier sur Santom et Principe, mm-hmm. où en fait il y a un roi qui s'appelle Adamor, qui est le héros national, qui a été un peu un ancêtre de Toussaint l'Ouverture. Il a mené une révolte d'esclaves contre les Portugais, bon, qui n'a pas fonctionné, hein, puisqu'elle a été écrasée, et j'aimerais travailler aussi sur ce personnage, voilà.
Dans tous les cas, je pense qu'on est très très loin d'abandonner ce pays.
Oui, voilà, on est très loin d'abandonner ce pays, le monde lusophone qui me passionne dans toute sa diversité, dans toutes ses variations, on pourrait dire.
Et Cosmopol, comme on disait au début d'émission, c'est une maison d'édition qui est un peu spécialisée dans les livres de voyage, en tout cas des territoires. Oui. Ils ont d'autres variations, en tout cas j'ai vu les variations sur la Grèce, et aussi des dictionnaires insolites. Donc c'est un bon terrain pour exprimer cette envie.
Alors c'est une nouvelle collection, ces variations, donc avec variations sur le Portugal et variations sur la Grèce qui sont sorties en même temps. Il y a tout un éventail de dictionnaires insolites, dont un dictionnaire insolite sur Lisbonne. Ces dictionnaires insolites sont sur des grandes villes, sur des pays. Et maintenant, la maison d'édition s'ouvre aussi à des thématiques comme le dictionnaire insolite des îles, des frontières qui sont sorties récemment. Il y a le dictionnaire insolite du chat aussi, des paquebots, de la mer, voilà, qui sont des nouvelles problématiques abordées par Patrick Arfi, Vanessa Pignard, qui sont les deux responsables de cette belle maison d'édition et que je salue depuis l'antenne.
Et
voilà.
Nous, on le remercie. Et maintenant, nous allons passer à quelque chose d'assez différent. Donc, Marc va continuer à parler, bien évidemment. Mais là, je vais demander de l'aide à Elena, à nouveau, qui va nous poser quelques questions. En fait, on va faire un petit questionnaire à la Proust, mais pas trop. Les questions ne sont pas des questions qui fâchent, mais quand même, un petit peu, qui vont piquer un petit peu. Et voilà, nous allons maintenant vous demander vos propres variations du Portugal, de façon très, très personnelle. Et je passe le micro à Elena, qui va lancer la balle.
Auteur préféré.
Alors, j'ai une autrice, un auteur préféré. L'autrice préférée, c'est Liv Joris, qui est une écrivaine voyageuse belge, qui a écrit notamment Les Portes de Damas et qui a beaucoup écrit sur l'Afrique. Et puis mon écrivain préféré, sinon, c'est Jean-Yves Loud, qui m'a beaucoup inspiré, qui a écrit Lisbonne dans la ville noire, qui m'a inspiré Lisbonne dans la ville musulmane, qui a écrit aussi sur les Açores, sur le Cap-Vert, sur le Brésil, voilà.
Poète préféré.
Alors, mon poète préféré, ça va être un poète iranien qui s'appelle Omar Khayyam. Mais j'hésite aussi avec un autre poète iranien qui s'appelle Hafez ou d'autres poètes iraniens. J'aime beaucoup les poètes iraniens. Voilà.
Réalisateur préféré.
Alors, mon réalisateur préféré, je dirais que c'est Cédric Clapiche par rapport à ce qu'il nous montre de Paris.
Musicien préféré.
Alors, mon musicien préféré, je dirais que c'est un musicien brésilien. Alors, j'hésite entre plusieurs. Je vais dire Gilberto Gil, je vais dire. Voilà. Mais ça pourrait être d'autres. Hein.
Peintre préféré.
Alors, mon peintre préféré, ça va être Rosa Bonheur. C'est une peintre parce qu'elle peint les animaux et elle a peint en plus pas mal chez moi, là d'où je viens, des vaches ou des animaux, un peu comme Sara Afonso au Minho, un petit peu.
Monument préféré.
Alors, mon monument préféré, ça, c'est une question difficile. Je dirais... J'hésite entre monument portugais et monument français, c'est pour ça.
Vous pouvez dire les deux.
Je peux dire les deux. Ouais. Alors, mon monument portugais préféré, alors j'aime bien le pont du 25 avril à Lisbonne pour ce qu'il représente en ambivalence d'ailleurs. Et en France, je dirais que c'est une montagne. Ça serait le Puy-Marie, mon monument préféré en France. Voilà.
Vous écoutez Allegre FM 93.1.
Qu'est-ce que vous aimez le plus chez les Portugais?
Alors, ben, leur gentillesse, je dirais. Voilà, leur gentillesse qui est à la fois leur force et leur faiblesse, qui fait écho peut-être à la question suivante. Voilà.
Qu'est-ce que vous aimez le moins chez les Portugais?
Alors, je dirais pas que c'est ce que j'aime le moins, mais c'est parfois leur gentillesse qui peut leur jouer des tours, parce qu'ils sont tellement gentils qu'ils ne vont pas oser dire non. Et parfois, chez moi, ça peut m'énerver, parce que je préfère qu'ils me disent non plutôt qu'ils laissent traîner la question de peur de me froisser. Voilà, trop de gentillesse tue la gentillesse, parfois.
Plat préféré.
Alors, mon plat préféré, je dirais le couscous.
Bière préférée.
La bière préférée, je ne bois pas beaucoup de bière. Si tu m'avais posé la question pour le vin, ça aurait été plus facile. Je dirais une Heineken, voilà, ça va être assez classique comme réponse.
Plage préférée.
Alors ma plage préférée, je dirais que c'est la plage de Caparica, à côté de Lisbonne, parce que j'ai des souvenirs avec une personne en particulier qui va se reconnaître à l'antenne, je pense, voilà.
Et moi, j'ajoute déjà le vin préféré.
Alors, le vin préféré, alors j'hésiterais entre les vins du Douro ou les vins de l'Alentejo. Mais je dirais plutôt les vins du Douro, comme vous êtes de Porto. Voilà.
Ça ira, ça voilà. Moi, j'aime beaucoup les vins de l'Alentejo. Ouais. Et là, maintenant, je parle au côté médiation culturelle.
Une petite blague de ma maman.
C'est l'institution culturelle préférée.
Alors, l'institution culturelle préférée... j'aime bien la Gaîté Lyrique ici en région parisienne, parce qu'elle est assez ouverte à la jeunesse sur les questions du numérique. J'aime bien ces expositions un peu participatives. Bon, après ça varie au gré des directions, mais néanmoins j'aime bien son positionnement.
Très bien, merci beaucoup Marc pour cet échange. Anna. On termine avec un dernier morceau où les guitares toujours sont à l'honneur. Et là, nous allons écouter le groupe Dead Combo, qui a eu un franc succès dans les années 2000 avec le duo de guitare de Pedro Gonçalves et Todd Tripps. Le morceau choisi est Es Olhar Que Era Só Teu. Et après, on se retrouve pour les suggestions culturelles pour la semaine à venir. C'était la guitare de Pedro Gonçalves et Todd Tripps con Dead Combo et Solar Que Era Só Teu. Vous êtes toujours sur Lusitania, Radio Aligre 93.1, et on ne va pas se quitter sans quelques suggestions culturelles pour les semaines à venir. Donc, je vous propose le 25 novembre un concert à Sans Mort les Fossés par Daninger et Red Mitchell. C'est le Noël de l'amitié et ça sera à l'église de Saint-François des Salles à 20h30, sans mort des fossés. Nous avons aussi le même jour, le 25 novembre, la dédicace et concert autour du livre de Alexandra Vieira, notre animatrice. Le roman s'appelle « Comme dit la chanson ». Donc il y aura l'intervention d'Alexandra Vieira, il duo Zidex. Et ça sera à l'espace Les Petits Fins, le 21 rue Saint-Lazare, Carnot, à Clamart. Et aussi pour aujourd'hui et demain, pressez-vous, nous avons la gala de musique portugaise faite, organisée par Guitar et Son, donc un ensemble et une association qui a été fondée par Quitote Sousa Nunes. Et aujourd'hui et demain, il y a un concert justement autour de la musique portugaise à l'espace Pierre à Moyal, 12 Avenue de la République, 80, dans le département 91, pardon, à Morangis. Je vous souhaite une excellente semaine. Je remercie encore une fois à Marc Théris d'être
Merci
avec nous pour
Merci
nous
beaucoup.
Présenter les variations sur le Portugal. Je remercie Helena Scaplin-Crozera d'avoir participé à l'émission. Et je vous dis à très très bientôt.
Vous écoutez Aligre FM 93.1.